À cette heure, nous sommes vraiment heureux. Heureux parce que rassemblés en grand nombre dans ce lieu, heureux parce que nous savons qu'au-delà de ce lieu, beaucoup, grâce à Radio Espérance, partagent avec nous ce message de la parole de Dieu. Nous sommes heureux parce que Dieu nous a convoqués et nous avons répondu à son appel. Nous sommes heureux parce que nous avons déjà été bénis ce matin et nous le serons encore. Nous ne sommes pas les seuls dans le monde à nous rassembler au nom du Seigneur. Tout autour de la terre, il y a des personnes qui se rassemblent au nom de Dieu. Il y a des personnes qui répondent à l'appel de Dieu, à ses convocations, et qui le louent et qui l'adorent ensemble. Mais alors, ce matin, nous voulons nous poser une question. Qui est ce Dieu qui a la possibilité de mobiliser tant de personnes tout autour de la terre et dans différentes cultures? Qui est ce Dieu qui mobilise autant? Pourquoi est-ce que Dieu mobilise autant? D'où lui vient sa capacité de mobilisation pour nous attirer à lui? Alors certains diront, c'est parce que Dieu est notre Créateur. C'est parce qu'il est notre Sauveur. Et tout cela est certainement vrai. Mais il y a un autre aspect de la personne de Dieu qui mobilise, qui nous donne du courage et qui nous donne envie d'aller de l'avant avec le Seigneur. Cette capacité de Dieu qui mobilise et qui nous attire, c'est sa capacité à faire des promesses et surtout sa capacité à tenir ses promesses. Oui, mes amis, la force de Dieu, c'est de pouvoir faire des promesses, mais surtout de tenir toutes ses promesses. Et la force du croyant, le bien du croyant, le signe qui montre que nous sommes attachés à Dieu, c'est bien quand nous avons la possibilité de faire confiance à la parole de Dieu, de croire en ses promesses et de vivre selon ses promesses. Dans la Bible, il y a plusieurs personnages fameux, célèbres, connus comme enfants de Dieu. Parmi eux, il y a Abraham. Abraham est certainement connu dans la Bible comme étant l'homme de la foi. Et regardez ce que la Bible dit d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'Abraham est un homme aussi fidèle à Dieu? Pourquoi est-ce qu'Abraham est reconnu dans la Bible? Nous lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, et vous verrez apparaître le texte, ou sinon vous pouvez lire dans vos Bibles. Romains, chapitre 4, versets 20 à 21. Romains, chapitre 4, versets 20 à 21. Voici ce que dit la Bible concernant Abraham. La Bible dit d'Abraham, « Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Quelles étaient les dispositions d'Abraham? Relisez avec moi. Au verset 21 de Romains, chapitre 4, le verset 21. Il est dit qu'Abraham vivait avec la pleine conviction que ce qu'il promet, que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu, quand il promet, mes amis, il accomplit ses promesses. Dieu n'a jamais fait une promesse qu'il ne puisse tenir. Pour tenir une promesse, il faut deux capacités. Il faut la fidélité et il faut la puissance. Quelquefois, nous faisons des promesses. Nous voulons bien les tenir, mais nous n'avons pas la capacité de tenir nos promesses. Nous avons entendu souvent bien des promesses lors de grandes campagnes, mais les promesses ne sont pas toujours tenues, pas parce qu'on ne veut pas, mais parfois parce qu'on ne peut pas. Mais le Dieu qui fait les promesses n'a pas de limite. La Bible dit qu'il est le Tout-Puissant. Dieu tient toutes ses promesses parce qu'il est fidèle et parce qu'il est Tout-Puissant. Prenons un exemple. Regardez avec moi un exemple comment Dieu fait une promesse et comment il tient sa promesse. Lisons une promesse que Dieu avait eu l'occasion de faire. Lisons dans Genèse 17, versets 8 à 9. Dieu parle et il parle à Abraham. Quand Dieu parle à Abraham dans Genèse 17, versets 8 à 9, voici ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, « Abraham, sois fidèle, marche avec moi et je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. » Dieu avait donc un jour promis à Abraham de lui donner en possession le pays de Canaan. Ce pays était déjà habité par d'autres peuples. Abraham se posait certainement la question, mais comment Dieu peut-il me donner un territoire qui est déjà habité? Mais alors, quand nous lisons l'histoire de la Bible, quand nous parcourons les livres historiques de la Bible, nous arrivons au livre de Josué. Dans le livre de Josué, nous avons le récit de la conquête du pays promis. Et quand la conquête du pays se fait, quand la conquête est pratiquement achevée, regardez ce que la Bible dit. Dans Josué chapitre 21, versets 43 à 45. Josué chapitre 21, versets 43 à 45. La Bible dit, « C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. » Ensuite, verset 44, « L'Éternel leur accorda quoi ?» Reprenez cela avec moi, je vous prie. Josué 21, verset 44. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. La Bible dit encore, dans Josué 21, verset 45, regardez, c'est un texte magnifique de la parole de Dieu. Un texte que nous pouvons apprendre par cœur et dans nos moments difficiles. Nous allons nous appuyer sur ce texte pour continuer notre combat dans la vie. Josué 21, verset 45. La Bible dit, Josué 21, verset 45. « Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. » Ce n'est pas le peuple qui a combattu pour prendre la possession du pays promis. La Bible dit que c'est l'Éternel qui livra entre les mains d'Israël tous les ennemis, quel que soit ton ennemi aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il peut les livrer tous entre tes mains, à condition que tu sois fidèle. Et regardez et dites avec moi, je vous prie, disons en cœur, Josué 21, verset 45, « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. » Oh mes amis, dites-moi, est-ce que ce texte de la Bible est magnifique? La Bible dit que Dieu, plus de six siècles auparavant, il avait fait des promesses à Abraham. promesse renouvelée à Isaac, promesse renouvelée à Jacob. 6 siècles après, les promesses sont tenues. Et la Bible peut dire, en faisant le constat, aucune des bonnes paroles prononcées par l'Éternel n'est restée sans effet et toutes ces paroles s'accomplirent. Oh oui, mes amis, la parole de Dieu ne s'accomplit pas toujours dans notre temps. La parole de Dieu ne s'accomplit pas toujours quand nous le voulons, mais la parole de Dieu s'accomplit toujours. Il faut parfois user de patience, user de persévérance, mais toutes les promesses de Dieu sont vraies et toutes les promesses de Dieu se réaliseront en leur temps. Oui, mes amis, vous avez noté, et vous avez bien noté, que la Bible dit que lorsque le peuple d'Israël est entré dans le pays promis, Dieu leur a donné du repos de tous côtés. Il n'y avait pas d'ennemis. Dieu leur avait donné du repos. Oh, c'est vrai. Après, ils ont perdu ce repos. Parce qu'Israël a abandonné souvent l'alliance. Et en abandonnant l'alliance, Israël ouvrait la porte aux ennemis. Mais quand c'est Dieu leur avait donné le pays, au moment où ils ont eu le pays de la main de Dieu, clé en main, une livraison clé en main, la Bible dit, ils avaient du repos de tous les côtés. Et je voudrais vous faire découvrir ce matin une promesse du Seigneur. Une promesse qui s'accomplira certainement. Une promesse en rapport avec ce que nous venons de lire. Regardez cette promesse et vous la découvrez en même temps que moi, je vous prie, dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. La deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, Dieu fait là une promesse à son peuple. Dieu fait là une promesse à tous ceux qui entendent la parole de Dieu en cet instant. Nous tous qui sommes là, Dieu nous fait une promesse ce matin. Et nous n'avons pas de doute. Nous ne sommes pas inquiets, car nous savons que les bonnes paroles de Dieu ne restent jamais sans effet. Quelle est la promesse? Quelle promesse que Dieu nous donne ce matin? Dieu avait donné à Abraham la promesse du pays promis, la promesse d'un repos, la promesse de la fin des tracas pour Israël. Eh bien, la bonne nouvelle ce matin, c'est que cette promesse, Dieu nous l'a fait aussi à nous ce matin. Le pays promis, ce n'est pas Canaan. Le pays promis, c'est une terre restaurée où nous vivrons l'éternité en paix. Regardez comment cette promesse est présentée dans la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. La Bible dit aux chrétiens qui sont parfois persécutés et tourmentés, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Quelle est la promesse du Seigneur pour l'Église ce matin? De donner à l'Église du repos. Est-ce que Dieu avait tenu la promesse de donner du repos à Israël? Oui, Dieu avait tenu cette promesse. Et ce matin, Dieu renouvelle cette promesse, non pas à Abraham, non pas à Israël physique, mais à l'Israël spirituel, à son Église, à tous les croyants. Dieu renouvelle la promesse. Dieu dit, je vous donnerai du repos. Et quand? Quand? 2 Thessaloniciens 1er verset 7. Quand est-ce que nous aurons ce repos? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ensuite, au milieu de quoi? D'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ensuite, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Lisez encore la suite avec moi. La Bible dit, lorsque le Seigneur viendra, il reviendra avec puissance. Il reviendra avec ses anges. Et quand il reviendra, à ceux qui ont aimé le Seigneur, à ceux qui ont accepté sa parole, à ceux qui n'ont pas vécu d'après des traditions, à ceux qui n'ont pas vécu d'après de leur convenance, mais à ceux qui ont vécu d'après toute la parole de Dieu, à ceux qui ont accepté l'évangile de Jésus-Christ. La Bible dit, à cela, Dieu donnera du repos pour l'éternité. Mais à ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur, la Bible dit que ce qui les attend, c'est la destruction par un feu qui les détruira éternellement. Oh oui, mes chers amis, Dieu te fait une promesse ce matin. Dieu fait une promesse à chacun de nous aujourd'hui. Dieu dit un jour, tes peines finiront. Un jour, ton combat s'arrêtera. Un jour, tu finiras de souffrir. Attache-toi à moi. Obéis à ma parole. Cherche la pensée de Jésus. Marche selon la parole de Dieu. Et un jour, tes luttes s'arrêteront. Tes persécutions seront terminées. Un jour, tes nuits de larmes ne seront plus. Mais tu connaîtras des nuits de réjouissance avec le Seigneur. Le Seigneur dit ce matin, mes amis, aimez la parole, toute la parole et rien que la parole. Et voilà le titre de notre méditation. La parole, toute la parole et rien que la parole. En tant que chrétien, c'est notre devise, c'est notre manière de vivre, car nous savons, mes amis, que le Seigneur Jésus dit à ceux qui obéissent à son évangile, un jour il donnera du repos. Un jour, le mal ne sera plus. Alors, mais vous me direz, mais comment Dieu peut-il faire une chose pareille? Alors je vous dirai, parce qu'il a les deux qualités qui permettent à quelqu'un de tenir une promesse. Premièrement, Dieu est fidèle et deuxièmement, Dieu est tout-puissant. La Bible a dit que c'est lorsque Jésus reviendra, que c'est lorsque Jésus reviendra qu'il donnera du repos à ses enfants. Mais regardez avec moi, dans le livre de l'Apocalypse, quel Christ qui revient? Quel Christ qui revient, mes amis? La Bible dit, en parlant du Christ qui revient, Apocalypse chapitre 1er, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, et celui-là, il est le Tout-Puissant. » Oh, mes chers amis, la promesse du repos que Dieu nous fait lorsque Jésus revient n'est pas basée sur la faiblesse, elle est basée sur la toute-puissance de Dieu. Le Seigneur Jésus qui revient, c'est l'alpha, autrement dit le premier. C'est l'oméga, autrement dit le dernier. Il englobe tout, il ramasse tout, il prend tout, il porte tout, il connaît tout. Le Seigneur qui revient, c'est le Seigneur omniscient. C'est le Seigneur à qui rien n'échappe. Le Seigneur qui revient, c'est celui qui est. C'est celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui revient, c'est celui qui est de toute éternité. Et en plus, la Bible dit qu'il est le Tout-Puissant. Regardez encore. Dans le livre de l'Apocalypse, toujours au chapitre 1er, et là vous ouvrirez vos Bibles. Vous ouvrirez vos Bibles dans Apocalypse 1, versets 12 à 18. Regardez cette magnifique description de ce Christ qui revient. Ce Christ qui revient est quasiment un Christ indescriptible, un Christ puissant, un Christ glorifié, un Christ ressuscité, un Christ triomphant. Oh mes chers amis, que vous soyez là ou que vous soyez derrière votre transistor, mettez votre confiance en Dieu, car toutes les promesses de Dieu se réalisent. Toutes les promesses de Dieu se réalisent, car celui qui fait la promesse est fidèle et celui qui fait la promesse, il est tout-puissant. Le Christ qui revient pour nous donner du repos. Regardez comment la Bible le présente. Apocalypse chapitre 1er, verset 12. La Bible dit que Jean est sur l'île de Patmos. Et pendant qu'il est là, en exil, il entend une voix. Il entend quelqu'un lui parler. C'est le début du livre de l'Apocalypse. C'est la première vision. Pourquoi c'est la première vision? Parce que toutes les autres visions dépendent de cette vision. Si nous n'avons pas cette vision, nous n'allons pas croire dans un paradis. Le livre de l'Apocalypse se termine par la vision du paradis. Mais le livre de l'Apocalypse commence par la vision du Christ qui revient. C'est en fonction du Christ qui revient que nous croyons dans la promesse du paradis. Regardez, le Christ qui revient. Apocalypse 1, verset 12. Jean entend quelqu'un lui parler. Jean dit, « Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. » Et qu'est-ce qu'il voit quand il se retourne? La Bible dit, « Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. » Et au milieu des sept chandeliers, ces chandeliers qui représentent l'Église, je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Dites-moi, dans la Bible, cette expression « fils d'homme », « fils de l'homme » est toujours attribuée à qui? À qui? À Jésus. Lisez les évangiles. Jésus lui-même, c'est par ce titre qu'il aimait se présenter. Jésus disait souvent « le fils de l'homme, moi le fils de l'homme ». Ce que j'en vois, il voit quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Le Christ qui revient, il nous fait penser par son vêtement au souverain sacrificateur. Lorsque, une fois par année, il se rendait dans le lieu saint, puis dans le lieu très saint pour le jour des expiations, le jour où le péché d'Israël qui était dans le sanctuaire était finalement déposé sur le bouc pour Azazel. Ce jour-là, le grand prêtre, il s'habillait de tous ses vêtements. Il mettait tout. Il mettait sa tunique, sa robe, sa ceinture. Il mettait tout son vêtement d'apparat. Eh bien, le Christ qui revient, il est dans tout cet apparat. L'apparat d'un souverain sacrificateur qui revient pour l'élimination du péché, qui revient pour que le péché soit mis sur son auteur, le bouc pour Azazel, qui représente le diable. Et regardez encore, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1er, au verset 14, le Christ qui revient a encore une caractéristique, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige, et ses yeux était comme une flamme de feu. Le Christ qui revient, c'est un Christ qui a un regard brûlant, un regard éclairé. Autrement dit, mes amis, lorsque Jésus reviendra, rien, mais absolument rien, ne pourra lui être caché. Parce que le Christ qui revient, il revient avec un regard de feu, un regard éclairé. C'est un symbole pour dire que lorsque Jésus revient, lorsque Jésus reviendra, il sait tout, celui qui revient. Il voit tout, il a tout vu, il a tout connu. Maintenant là, si tu passes par des moments de tribulation, si tu passes par des moments difficiles, sache que le Christ te voit. Sache que rien n'échappe à la vision panoramique du Seigneur. Sache que le Seigneur note ce qui t'arrive, qu'il prend soin de toi et que le Seigneur prépare déjà une délivrance pour toi. Mais sache aussi que si tu mènes une double vie, que si tu as une vie publique et une vie cachée, sache aussi que rien n'échappe au regard du Seigneur. Sache aussi qu'aujourd'hui, tu peux tromper ton monde, tu peux peut-être tromper ton époux, peut-être tromper ton épouse, tromper ton église, mais qu'au jour où Jésus reviendra, tu ne pourras pas le tromper, car le Seigneur qui revient est un Seigneur qui voit tout, un Seigneur qui a un regard de braise, un regard éclairé, un regard à qui rien n'échappe. Oh mes amis, regardez encore quel Christ qui revient. La Bible dit au verset 15, Apocalypse 1, verset 15, la Bible dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grosses eaux. Mes amis, souvenez-vous d'une chose. Lorsque Dieu avait besoin de donner, ou plutôt de rappeler, car les 10 commandements ont toujours existé, bien avant le peuple d'Israël. Mais quand Dieu avait besoin de rappeler les 10 commandements à son peuple, peuple qu'il venait de libérer d'Égypte, peuple qu'il venait de faire sortir de l'esclavage, quand Dieu avait besoin de leur donner ses commandements, la Bible dit, vous pourrez lire cela attentivement dans le livre de l'Exode, au chapitre 18, 19 et 20. La Bible dit que Dieu arrêta son peuple au pied du mont Sinaï. Et Dieu dit au peuple, vous, sanctifiez-vous, restez là en bas de la montagne. Et pendant ce temps, Dieu dit à Moïse, toi mon serviteur, monte sur la montagne. J'ai quelque chose à te donner, une chose que tu vas partager avec le peuple. Et cette chose que Dieu donnait à Moïse, c'était une parole de libération, une parole de liberté. Car nous appelons souvent cela les 10 commandements. Mais si vous lisez attentivement, Exode chapitre 20, verset 1er, il n'y a pas l'expression 10 commandements, il y a l'expression 10 paroles. Dieu donne 10 paroles. Et la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu relève, instruit, console. Alléluia. Dieu donnait donc 10 paroles à Moïse. Mais le peuple qui était en bas, souvenez-vous, ou alors notez ce que je vous ai dit et soyez curieux, lisez votre Bible, Exode 18, 19 et 20. Le peuple qui était en bas, qu'est-ce qu'il entendait ce peuple? Qu'est-ce qu'il entendait sur la montagne? Dites-moi. Il entendait ce peuple quoi? Il y avait une théophanie extraordinaire. Dieu se révélait. Le peuple entendait quoi? Des coups de tonnerre. Le peuple voyait quoi? Des éclairs. Le peuple voyait des manifestations. Le peuple entendait des bruits de tonnerre. C'était quoi ce bruit de tonnerre? C'était simplement une théophanie. Dieu qui se révèle à Moïse. Mais bien aimé, lorsque la Bible nous dit que le Christ qui revient, il a la voix qui ressemble au bruit de quoi? De tonnerre ou de grosses eaux. Cela nous rappelle le don de la loi, le don des tables de la loi sur le mont Sinaï. Et cela nous dit que le Christ qui revient, c'est un Christ qui revient et qui tiendra compte des commandements et de ce que nous avons fait de commandements. C'est volontairement que cette allusion est là pour nous replonger dans l'univers du Sinaï, l'univers du don de la loi, et que nous puissions nous dire, mais le Christ qui revient, c'est le même qui a donné les commandements. Et il n'a jamais aboli ses commandements, et il voudra qu'au jour du jugement, je puisse lui dire, comment je me suis positionné face à ces commandements? Est-ce que j'ai décidé, moi, d'abolir ces commandements, de les changer, de les modifier? Oui, mes amis, la preuve de ce que nous avançons se trouve dans les versets suivants. Lisez Apocalypse 1, verset 16 avec moi. Apocalypse 1, verset 16, la Bible dit que le Christ qui revient avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait quoi? Sortait quoi? Une épée aiguë à deux tranchants. De sa bouche, le Christ qui revient Apocalypse 1, 16. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Étonnant, une épée dans la bouche. Une épée qui sort de sa bouche. Et vous notez que dans cette description du Christ qui revient, c'est la seule arme offensive que le Christ possède. Une épée qui sort de sa bouche. Et lisez la suite avec moi, je vous prie. Verset 17. Jean dit, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant sur moi, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du... Oh, mes amis, quel Dieu puissant qui revient. Mais ce Dieu puissant qui revient, la Bible dit que de sa bouche, de la bouche de ce Dieu puissant, sort quoi? Une épée. La Bible dit que le Christ qui revient, quand il parle, sa voix ressemble au bruit de tonnerre, au bruit de grosses eaux. Mais alors, nous avons dit que cette allusion au bruit de tonnerre, c'est pour nous rappeler que le Christ qui revient, c'est le même qui parlait sur le mont Sinaï. Ce n'est pas un autre. Mes amis, il n'y a pas deux dieux dans la Bible. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament. Il n'y a pas le Dieu de la loi et le Dieu de la grâce. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et le Christ qui revient, le Christ qui fait grâce, c'est lui qui a donné les commandements sur le mont Sinaï. Et la Bible dit que la seule arme que le Christ a quand il revient pour le jugement, c'est une épée qui sort de sa bouche. Mais alors c'est quoi cette épée? Regardez, la Bible le dit. Nous n'avons pas besoin de réfléchir. La Bible le dit dans l'Épître aux Hébreux. La Bible dit, car la parole de Dieu, elle est quoi? Vivante, elle est quoi d'autre? Efficace, elle est comment? Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La Bible dit que l'épée qui sort de la bouche du Christ qui revient, c'est sa parole. Et si vous lisez Exode 20, verset 1er, vous lirez que la Bible dit que sur le mont Sinaï, Dieu donna à Moïse 10 paroles. Par conséquent, le Christ qui revient, c'est lui qui était sur le mont Sinaï. Cette théophanie, c'est Christ qui était venu voir Moïse. C'est Christ qui a donné les 10 paroles. C'est Christ qui revient avec la parole qui sort de sa bouche comme l'épée. Oui, mes amis, lorsque Jésus viendra, une seule chose il te demandera. Non pas ton âge, non pas ton sexe, non pas ta nationalité. Le Seigneur te demandera une chose. Qu'as-tu fait de ma parole? Qu'as-tu fait de mes commandements? Et alors, ce jour-là, il y aura deux réponses. Ceux qui diront, Seigneur, tu sais, j'ai toujours aimé tes commandements. J'ai toujours aimé ta parole. J'ai toujours considéré que ta parole est vraie, qu'elle est valable, qu'elle est vivante. J'ai toujours voulu marcher selon cette parole. Mais tu sais, Seigneur, eh bien, je suis humain, je suis faible. Je me suis souvent laissé tenter. Souvent, j'ai dérivé loin de ta parole. Je n'ai pas toujours été comme il faut face à cette parole, mais j'ai toujours voulu la garder, Seigneur. J'ai toujours voulu que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et à ceux-là qui diront cela, le Christ dira, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître, entre dans le repos éternel. Et puis, il y a ceux qui diront, Seigneur, tu sais, ta parole, qu'est-ce que j'en ai fait? Bonne question. Mais tu sais, Seigneur, ta parole, je l'ai abolie, je l'ai modifiée, je l'ai transformée et je ne l'ai pas toujours acceptée. Quand toi, tu as dit, tu ne commettras point d'adultère, eh bien moi, je papillonnais comme je pouvais et comme je voulais. Quand toi, tu as dit, tu honoreras le septième jour comme jour de repos. Eh bien moi, Seigneur, j'ai adoré et j'ai honoré comme je pouvais le premier jour. Parce que vous savez, mes amis, que le premier jour de la semaine, c'est dimanche, et que tout le monde le reconnaît, parce que la Bible dit que Christ est ressuscité des morts le premier jour de la semaine, et nous commémorons cet événement le dimanche de Pâques. Mais Jésus n'a jamais dit de commémorer quoi que ce soit le dimanche. Jésus a toujours dit, vous devez honorer et sanctifier le septième jour de la semaine. Eh bien, le Seigneur nous dira, qu'as-tu fait de ma parole? Je lui dirai, Seigneur, peut-être, quelqu'un lui dira peut-être, Seigneur, quand tu disais, tu ne mentiras point, eh bien moi je disais, débrouille à pas péché. Quand le Seigneur dira, qu'as-tu fait de ma parole? Je lui dirai, Seigneur, tu sais, tu disais qu'on ne doit pas faire d'image taillée pour se prosterner devant. Mais tu sais, Seigneur, je sentais qu'à la maison, j'avais besoin d'une statue. J'avais besoin de quelque chose. J'avais besoin d'allumer une bougie. J'avais besoin de me prosterner devant. Quand le Seigneur me dira, qu'as-tu fait de ta parole, de ma parole? Eh bien, je lui dirai, tu sais, Seigneur, finalement, je ne l'ai pas accepté. Je ne me suis pas soumis à ta parole. Et la Bible dit à ce moment, la parole que nous n'avons pas acceptée va se transformer en épée. En une épée tranchante. Une épée qui va partager le bien du mal, partager les fidèles des infidèles. Alors, certains diront, mais comment le pasteur peut-il dire toutes ces choses? Eh bien, il le dit très simplement parce que Jésus l'a dit. Regardez ce que Jésus dit, mes amis. Ce texte est clair, il est fort, il est puissant, parfois tellement clair, tellement puissant, que nous aimons des choses compliquées pour être sauvés. Nous préférons des théories, des philosophies alambiquées. Il y a des gens qui voudraient une religion compliquée, une religion à grade, où on monte, où on descend, où on apprend des choses, où il y a des lieux réservés pour certains et pas d'autres. Mais la religion du Seigneur est une religion simple. Regardez ce que Jésus dit simplement. Jésus dit simplement dans l'évangile de Jean. Très simplement. Jésus dit dans Jean 12, 48. Jean chapitre 12, au verset 48. Jésus dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Reprenons ensemble. Cette fois, dites-le avec moi, je vous prie. Jésus dit, celui qui me rejette et qui ne me reçoit pas, et qui ne reçoit pas mes paroles, il a son juge. Quel est ce juge? Regardez, verset suivant. Jésus dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Mes amis, Jean chapitre 12, verset 48. Jésus dit qu'à la fin des temps, chacun sera jugé par la parole, selon la parole. Chacun a son juge. Le juge des hommes, ce n'est pas le pasteur. Le juge des hommes, ce n'est pas un homme religieux. Le juge, Jésus dit, ce n'est même pas moi, ce n'est même pas Jésus qui juge. Vous savez qu'est-ce qui va juger? C'est la parole. C'est la parole qui va juger. Et la parole, c'est la parole de Jésus. Mais la parole de Jésus, elle commence depuis Genèse 1, verset 1, jusqu'à Apocalypse chapitre 22. Toute la Bible, c'est la parole de Jésus, mes amis. Exode 20, les 10 commandements, c'est la parole de Jésus. La Bible dit que Dieu prononça 10 paroles sur le mont Sinaï. Mon frère, ma sœur, toi qui nous écoutes ici et derrière ta radio, ce matin, le Seigneur nous parle avec simplicité, mais avec clarté, de telle sorte que personne ne soit confus lorsque Jésus reviendra. Le Seigneur dit, mon enfant, j'ai donné une parole pour toi. Une parole de vie, une parole de salut. ne permet à personne de te dire que la parole de Dieu n'est plus, qu'un commandement est aboli, qu'un commandement a été changé. Mes amis, quand Dieu donnait les 10 commandements, il les a donnés 2 fois sur des tables de pierre, des tables qu'il a rédigées de ses doigts. Mais alors, s'il a pris tant de mal et de précautions pour donner les commandements, s'il devait les abolir, au moins il nous aurait dit en quelque part, les commandements sont abolis ou tel commandement est changé. Je mets au défi quiconque de venir ici et d'ouvrir la Bible et de trouver un endroit où il est dit, l'adultère est aboli, le mensonge est aboli, l'adoration des idoles est abolie. Personne ne peut dire cela. Ce n'est pas écrit dans la Bible. D'ailleurs, personne ne le dit. Mais tout le monde, ou plutôt beaucoup, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris pourquoi, mais tout le monde a déclaré, certains déclarent, il y a un commandement qui est aboli, le 4e commandement, le sabbat de l'Éternel. Mais comment les autres se maintiennent et celui-là est aboli? Pourquoi? Comment? Où est-ce que c'est dit? C'était tout dans la même enveloppe. Tous les commandements étaient là, ensemble. Mais si on abolit un, on abolit tous. La Bible dit d'ailleurs, dans l'épître de Jacques, la Bible dit d'ailleurs, si quelqu'un transgresse un commandement, il est coupable de tous. Oui, mes amis. Oh, mes chers amis. Tellement, nous aurions voulu ce matin qu'au nom de Dieu, chacun qui entend cette parole puisse se dire, quelle est ma position face à la parole de Dieu? Est-ce que je vis selon ses paroles? Est-ce que je marche selon la parole du Seigneur? Ou est-ce que je marche selon des traditions, des philosophies, des théories? Est-ce que je marche d'après ce que dit un pasteur, un homme religieux? Ou est-ce que je marche d'après ce que dit Jésus-Christ? Oh, je vous en supplie, chers amis. Il faut marcher selon ce que dit Jésus. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut marcher selon tous les commandements de Dieu. Car lorsque Jésus reviendra, le juge, ce sera la parole. Et c'est pourquoi, mes amis, nous devons dire chaque jour de notre vie la parole, toute la parole et rien que la parole. Nous reprenons ensemble la parole, toute la parole et rien que la parole. Jésus revient bientôt. Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt pour ce grand jour? Jésus viendra avec son épée dans sa bouche, la parole, très simplement. Es-tu prêt pour ce jour? Bientôt, le Seigneur va venir. Bientôt, il veut ouvrir le ciel. Es-tu prêt pour cela? Quand Jésus viendra, devra-t-il t'ouvrir le ciel ou devra-t-il te condamner? La décision t'appartient ce matin. La décision t'appartient aujourd'hui. Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt? As-tu choisi Jésus? As-tu accepté Jésus? As-tu décidé de marcher selon sa parole, selon tous ses commandements? Oh, mes amis, vous avez peut-être grandi dans une tradition chrétienne qui mettait de côté certaines paroles du Seigneur. Mais à partir de ce matin, Dieu a été bon pour nous. Dieu a été bon pour toi. Dieu t'a révélé sa parole. Dieu t'a révélé son plan. Dieu t'a révélé ce qu'il prépare. Je t'en supplie, s'il faut, change de voie. S'il faut, renonce à certaines pratiques humaines et accepte Jésus. Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt, le ciel, il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Chantons ensemble ce merveilleux cantique. Et si vous voulez bien, tenons-nous debout afin d'élever nos voix au Seigneur. Et tandis que nous chantons ce chant, que chacun rentre en lui-même, que chacun s'analyse et que chacun se demande, quelle est ma position face à la parole du Seigneur?
Es-tu prêt? Es-tu prêt?
de chanter le dernier couplet, j'aimerais m'adresser aux auditeurs de Radio Espérance. Si vous avez été touchés par ce que vous venez d'entendre, rejoignez-nous demain soir à l'église de Smyrne. Ou sinon, appelez la radio, appelez Radio Espérance. Ils vont vous mettre en contact avec nous afin que nous puissions vous accompagner dans une démarche avec le Seigneur. J'aimerais dire à ceux qui sont ici dans ce lieu, si vous avez été touchés par ce qui a été dit, et si vous avez décidé de donner votre vie à Jésus, de marcher selon sa parole, de vivre avec Jésus, eh bien, tandis que nous allons chanter le dernier couplet, le personnel d'accueil passera dans les rangs et va vous remettre une feuille blanche pour tous ceux qui veulent. Tous ceux qui veulent dire, je donne ma vie à Jésus, je veux marcher selon sa parole. Eh bien, si vous n'avez pas encore eu cette feuille, prenez-la des mains de ceux qui passent. Remplissez-la et vous me la remettrez. Je vous appellerai, je prierai avec vous. Je vais étudier la Bible avec vous et vous préparer afin que vous puissiez vous donner à Jésus totalement. Oui, mes amis, prenez cette feuille si vous êtes ici. Si vous êtes auditeur de la radio, rejoignez-nous demain soir ou appelez la radio. Mais nous ne pouvons pas entendre un tel message et ne pas prendre une décision pour le Seigneur. Bientôt, dans le ciel enlevé. Tous les élus seront sauvés.
Tous les élus seront sauvés.
Es-tu prêt?
Es-tu prêt? Es-tu prêt?
Es-tu prêt pour l'éternité?
Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu Es-tu prêt? Le Seigneur t'a dit racheté.
Inclinons-nous et prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous sommes heureux de servir un Dieu comme toi, un Dieu fidèle, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui ne fait rien sans prévenir son peuple. Nous te bénissons, ô Dieu. Nous te rendons grâce, ô Dieu, parce que dans ta fidélité et dans ton amour, tu nous as révélé ton plan ce matin, le plan pour l'éternité, le plan du retour de Jésus, le plan de ce matin glorieux où les morts en Christ ressusciteront, le plan de ce matin glorieux où tes enfants fidèles encore vivants seront transmués et qu'ils auront tous un corps incorruptible. Le plan extraordinaire, Seigneur, où selon ta parole, tu nous donneras un jour du repos. Nos luttes cesseront, nos persécutions ne seront plus, nos ennemis ne seront plus, nos peurs et nos angoisses disparaîtront. Oh, ce jour-là, Seigneur, nos maux physiques, spirituels, mais aussi nos maux au niveau de notre psychique, tout cela disparaîtra. Tu feras de nous, Seigneur, des personnes débarrassées du souvenir de la souffrance. Tu essuieras toute larme de nos yeux et tu nous donneras du repos pour l'éternité. Oh, quel grand jour ce sera, Seigneur! Quel grand jour ce sera! Et nous ne voulons pas rater ce jour. Nous ne voulons pas rater ce rendez-vous. C'est pourquoi, en cet instant, Seigneur, nous te donnons nos vies. Nous ouvrons nos cœurs à l'influence de ton esprit. Et nous te disons, entre en nous et par ton esprit, brûle tout ce qui n'est pas de toi. Libère-nous de nos craintes, libère-nous de nos angoisses, libère-nous du qu'en dira-t-on et permets que sans regarder ni à droite ni à gauche, sans consulter ni la chair ni le sang, que nous puissions aller droit aux pieds de Jésus pour trouver grâce en ce moment. Seigneur, bénis tes enfants, bénis-nous, sauve-nous, délivre-nous, rends-nous intelligents et sages, donne-nous de la bonne volonté afin que nous puissions accepter ta parole dans toutes ses dimensions et que nous puissions vivre avec toi dans l'éternité. Sois béni, notre Dieu. Sois exalté, notre Père. Parce que tu es bon, parce que tu es grand, nous te remercions et nous te bénissons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.